Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bonsoir messieurs, bienvenue dans À votre avis, votre émission interactive qui passe de lundi à vendredi à 18h05 temps universel. Ce soir, depuis le studio 9 de la Voix de l'Amérique, au micro, Nanit Talani, à la réalisation Joselle Morissin, à la technique, nous avons Ivanov. Ce soir, nous parlons du rapport de ONU Femmes. Ce rapport affirme que plus de 340 millions de femmes et de filles, soit environ 8% de la population féminine mondiale, vivront dans l'extrême pauvreté d'ici 2023 à cause des inégalités persistantes et 110 millions de filles et de jeunes femmes ne seront pas scolarisées. Et ONU Femmes dénonce donc des disparités de genre liées aux postes de pouvoir. Pourquoi ces inégalités persistent-elles et que faire pour les combattre? Quelle est la situation autour de vous? Comment améliorer la condition des filles et des femmes dans nos pays? Pour participer, un seul numéro, c'est le +1 202 205 26 33. Nous avons aussi notre numéro WhatsApp qui vous permet également de laisser vos messages. C'est le +1 202 297 60 89. Alors, nous avons une invitée, c'est Djamila Oumou que nous allons introduire, que nous allons recevoir. Bonsoir.
Bonsoir.
Elle est à Dakar au Sénégal. Alors, comment ça va à Dakar?
Ça va à Dakar, il fait un peu chaud, mais ça va.
D'accord. Alors, Djamila, elle est informaticienne et gestionnaire de projets. Alors, vous avez vu les chiffres, Djamila, plus de 340 millions de femmes et de filles, ça fait quand même environ 8% de la population et qui va, donc ces personnes qui vont vivre dans l'extrême pauvreté d'ici 2030 à cause des inégalités. Quelles peuvent être les raisons qui font que ces inégalités persistent aujourd'hui?
Alors, on constate en fait depuis quelques années que dans la plupart des sociétés, il y a certains types de métiers qui sont attribués sur lesquels les femmes sont le plus souvent cantonnées. Et à partir du moment où elles sortent de ces métiers types, elles n'ont plus la capacité d'être concurrentes vis-à-vis des hommes. Et généralement, ces trucs sont liés beaucoup au contexte socio-économique, beaucoup au contexte culturel aussi de ces femmes, parce que dans la majorité des pays africains, essentiellement, le rôle de la femme est plus vu comme celle qui élève, celle qui aide les enfants à arriver à maturité. Et il y a ce préjugé où on se dit qu'à partir du moment où elle a la capacité de travailler, ça veut dire qu'elle ne pourra pas accomplir son devoir dans sa globalité. Et c'est là, en fait, où on se rend compte que, quelque part, on se trompe. Parce que si aujourd'hui, on a à la maison, imaginez, vous avez cette femme qui a étudié, qui a la capacité d'être sur des postes concurrents et qui élève votre enfant. L'enfant qui sera élevé va avoir le mindset, va avoir cette mentalité de se dire « je dois faire mieux ». Parce que l'exemple que j'ai autour de moi, c'est l'exemple de femmes fortes. Et c'est pour ça que la plupart des jeunes filles qu'on a autour de nous aujourd'hui n'ont pas d'exemple autour d'elles qui leur prouve que non, j'ai autour de moi des femmes fortes, ça veut dire que je peux être aussi forte que ces femmes, ou peut-être plus. Et c'est l'une des grandes problématiques qu'on a. Parce que pour la plupart des jeunes filles, surtout moi, je travaille essentiellement avec des jeunes dans mon environnement, ces jeunes filles me disent « Ah, madame, on ne peut pas aller vers ces métiers parce que ces métiers sont des métiers d'hommes. » Donc, quelque part, il y a une sorte de mystification qui existe autour des métiers qu'elles ont le droit d'exercer.
Et ce sont des jeunes filles elles-mêmes qui refusent d'aller vers ces métiers parce qu'elles les considèrent comme étant des métiers d'hommes?
Oui, tout à fait. Beaucoup vous disent qu'elles ont des difficultés à aller vers ces métiers parce que la société va les juger. Mais quand on regarde historiquement en Afrique, il n'y avait pas cette discrimination qui existait. On avait des femmes qui étaient des guerrières. On avait des femmes qui étaient dans le gouvernement. Maintenant, on se rend compte qu'on a beaucoup calqué sur le système éducatif qui vient de l'extérieur, de l'Europe, et qu'on a calqué ces méthodes parce que, fondamentalement, les femmes de pouvoir n'existent pas en Europe. Et quand les métiers, l'éducation, le système éducatif est venu en Afrique, il fallait détruire cette base où les femmes n'ont pas accès à des métiers de pouvoir, parce que historiquement, en Europe, les femmes n'avaient pas accès à des métiers de pouvoir. Pourtant, quand vous regardez historiquement en Afrique, on a énormément de femmes de référence qui sont là, qui prouvent que les femmes avaient accès à des métiers de pouvoir. Donc, la question est de se poser, est-ce qu'on n'a pas perdu quelque chose au moment où on a accepté le système éducatif tel qu'il est aujourd'hui? Est-ce qu'on n'a pas délaissé quelque part le système éducatif qui existait avant, qui prouvait, qui montrait à quel point les femmes étaient fortes et portaient la société?
Merci beaucoup. Merci. C'est une question à laquelle nous allons tous réfléchir. En attendant, nous allons prendre un auditeur en ligne depuis le Tchad, Dim Rongar. Bonsoir.
Bonsoir la Voix Afrique et bonsoir à tous les fidèles auditeurs.
Alors, que pensez-vous des conclusions du rapport de ONU Femmes?
Bon, moi je pense que cette situation dépend beaucoup plus de l'éducation de base. Et vous savez, au Tchad, on est confronté à cette situation. Et ce que moi je peux dire aujourd'hui, il est de la responsabilité des parents et aussi des instructeurs et de la part de l'État aussi. Et sinon, sans ça, ça va être compliqué. Ça fait que beaucoup de femmes aujourd'hui se sentent marginalisées ou les hommes marginalisent les femmes parce que on les voit comme des êtres qui ont une certaine norme, une limite dans certaines choses. Donc, je crois que il est normal aujourd'hui de combattre et les femmes aussi doivent s'élever pour faire face à ces problèmes, sinon se laisser faire. Je crois que c'est ça aussi qui fait que ça persiste, la situation persiste. Donc moi je pense que pour arriver à des solutions, il faut que tout le monde essaie de se mettre dans la danse et apporter sa pierre de contribution. Sinon aujourd'hui je vois que ça, c'est très lamentable que les femmes sont à la traîne et que parfois elles se sentent abandonnées ou elles se sentent toujours comme des êtres inférieurs. Pourtant, elles ont la potentialité, la capacité aussi d'être à la hauteur comme les hommes. Donc, je crois qu'il faut changer le paradigme pour que l'homme et la femme se voient comme des personnes qui sont au même pied d'égalité et qui peuvent exercer les mêmes fonctions ou peuvent faire les mêmes travaux. Parce que physiquement, vous allez constater aujourd'hui qu'il y a des femmes qui sont mieux que les hommes. Mais ça persiste, je crois que c'est aussi la réponse de tout et chacun.
Ok, je pense qu'on l'a perdu. Merci beaucoup. Nous revenons vers Djamila. Alors, c'est vrai, vous avez évoqué des faits très, très intéressants concernant les femmes qui étaient guerrières. Mais aujourd'hui, on remarque aussi que parfois, il y a des pesanteurs qui viennent des hommes, parfois qui ne veulent pas laisser leurs femmes assumer des postes de responsabilité. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet?
Je pense qu'il n'est pas question d'hommes qui refusent ou qui ne donnent pas l'espace aux femmes d'assumer ces responsabilités. Il est question de qu'est-ce que les femmes font pour avoir accès à ces responsabilités. Parce que si on reste inactif et qu'on dit qu'on attend des hommes de nous donner la permission, ils ne vont jamais accepter. On est tous d'accord qu'il n'y a aucun homme qui va se dire « oui, je veux que mon épouse sorte » ou « je veux que ma sœur aille ». Il y en a certains qui le font. Mais de manière intrinsèque, c'est des créatures qui sont très possessives, des créatures qui essayent d'exercer leur masculinité d'une certaine manière. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais je pense qu'il est important aussi que la femme, de son côté, sache qu'elle a besoin d'exprimer ce besoin. On ne va pas dans une guerre des genres. Non, là n'est pas le but. Le but, c'est de savoir qu'est-ce que je peux faire, quels sont... jusqu'où je peux aller pour pouvoir acquérir cette autonomie que j'ai. Parce que on a beaucoup de jeunes aujourd'hui, et on le voit de plus en plus, qui aujourd'hui ils n'ont pas fait de longues études, vraiment. Oui. Mais ils se sont assis, ils ont regardé autour d'eux, dans la société, quel problème je fais face, à quel problème est-ce que ma communauté fait face, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma communauté. Et les gens commencent comme ça. Et ces filles-là, elles font ces filles, ces femmes, elles portent leur famille, elles portent la société, parce que économiquement, elles créent un certain revenu qui existe, qui fait que les hommes le veulent ou pas, ils sont obligés de reconnaître l'apport qu'elles amènent. Donc, quelque part, en agissant, elles imposent le respect ou elles réclament ce respect que les hommes leur doivent.
Merci beaucoup. À présent, nous allons écouter le commentaire que Alphonse Mouaki, l'un de nos auditeurs en RDC, a laissé sur notre numéro WhatsApp.
Alphonse Mouaki, à votre avis, moi je pense qu'il est pour éviter les inégalités des genres dans le monde d'aujourd'hui qui évolue déjà, il faut procéder à l'éducation de nos sociétés. Dire aux hommes que les femmes, les filles sont des êtres humains qui doivent s'épanouir, qui doivent s'autonomiser. Et aussi aux gouvernants, aux politiques de pouvoir insérer dans les postes de responsabilité plusieurs femmes afin que celles-ci aussi encouragent le développement des femmes. Et aussi, il faut permettre que les femmes puissent travailler dans des structures de prise de décision ou des fabrications de lois. Lorsqu'on élabore des lois, lorsque les femmes sont là, elles se connaissent mieux elles-mêmes, elles doivent participer au progrès de la femme. Il faut permettre aux femmes d'étudier. Chez moi, en RDC, en tout cas, les filles étudient. Par rapport à l'éducation, il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas d'inégalité. Les filles ont accès à l'étude. Et lorsque les femmes étudient, aussi, il faut leur permettre de travailler, de s'épanouir et sortir de la pauvreté. Les disparités salariales doivent disparaître lorsque on a les mêmes grades, lorsque on a les mêmes titres, les mêmes niveaux d'études. Les salaires doivent être aussi égaux. Donc voilà ce que j'avais à dire, surtout au Rwanda. Vous voyez comment au Rwanda, comme ça, on favorise l'émergence des femmes. Nos sociétés doivent rejoindre le Rwanda, nos sociétés africaines, pour pouvoir permettre aux femmes de s'épanouir, d'aller en avant. C'était donc Alphonse Bouakida, à votre avis.
Voilà, Djamila, nous arrivons à comment donc combattre ces inégalités. Nous avez certainement suivi ce que notre auditeur, Alphonse Mouaki, a dit depuis la RDC, des solutions qu'il a essayé d'avancer pour combattre ce problème. Que dites-vous de ces propositions?
Je pense que certaines des propositions qu'il a avancées sont quand même intéressantes, mais la question de la position de la femme dans la société, et comme il l'a soutenu, c'est un problème qui concerne toute la société. On ne peut pas juste prendre une partie de cette société et espérer avoir une solution pertinente, réaliste, sur le long terme. Donc, oui, les femmes ont besoin de savoir ce à quoi elles ont accès et comment elles peuvent prendre position de ça. Les hommes doivent connaître également leurs responsabilités sur ces questions-là. Le gouvernement peut faciliter certaines choses, mais je pense que le travail qui a besoin d'être fait, c'est d'ouvrir les esprits concernant le rôle de chacun et ce à quoi chacun peut avoir accès. Il n'est pas surprenant de voir aujourd'hui dans certains pays où certains postes de responsabilité reviennent à des femmes. Mais la difficulté que ces femmes, qui sont déjà des femmes de pouvoir en ce moment, font face, c'est qu'elles doivent travailler 2 ou 3 ou 4 fois ou 10 fois plus qu'un homme pour que cette femme se fasse respecter sur ce poste. Et du coup, elle obtient ce label de c'est quelqu'un de trop froid, c'est quelqu'un de trop exigeant. Mais imaginez quand vous devez vous battre contre tout le monde. Parce que l'une des difficultés aussi que les femmes font face et qu'il est important de rappeler, c'est qu'elles doivent également prouver leur essence vis-à-vis de leur congénère femme. Parce que la problématique n'est pas uniquement concernant les hommes ou comment les hommes ne donnent pas l'espace nécessaire aux femmes d'avoir accès à certains postes ou la société. Parce que la société est constituée d'hommes et de femmes. Et ces femmes-là doivent faire face également à d'autres femmes pour leur prouver que, écoute, je suis arrivée où je suis parce que j'en suis capable. Et je pense qu'il y a un travail à faire à ce niveau. Il est important de travailler sur les mentalités de ces femmes pour qu'elles comprennent qu'une femme qui arrive à un certain degré n'est pas forcément l'ennemi des autres femmes. Et quand on arrive à un certain degré, on ne doit pas considérer que les autres femmes ne sont pas assez bien ou qu'elles ne font pas assez d'efforts. Qu'est-ce que moi, en tant que femme, je peux faire pour que les jeunes qui viendront derrière, après moi, se diront « Ok, une partie du travail a été fait, il faut que je fasse mieux pour que les autres qui viendront derrière, ben, elles puissent en faire autant ou qu'elles fassent à moins de difficultés que moi. » Je pense que c'est sur ces aspects-là qu'il faut peut-être mettre un peu plus l'accent.
D'accord, merci bien. Nous avons un autre auditeur qui a laissé son numéro sur notre numéro WhatsApp. C'est Anissé. Il est au Burundi. On va l'écouter.
Bonsoir VO Afrique. Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de la radio Voix d'Amérique. C'est Anissé Guérigny depuis Bujumbura au Burundi. Et en ce qui concerne le sujet, et malgré des évolutions notables dans différents pays et différents domaines, l'égalité hommes et femmes est encore loin d'être atteinte. C'est un combat quotidien pour que les femmes puissent bénéficier des mêmes droits que les hommes. Et chez nous, dans la société burundaise, les grandes responsabilités reviennent à l'homme, d'où le patriarcal. La femme s'occupe des tâches domestiques alors que l'homme s'occupe des travaux extérieurs comme l'approvisionnement en produits de première nécessité. Pour moi, promouvoir les droits des femmes, c'est que les femmes se sentent soutenues, appuyées et accompagnées dans les luttes contre les violences faites aux femmes. Je pense que ça va aider et ça va encourager les femmes à dénoncer les violences sexuelles et morales qu'elles subissent tous les jours. Merci, VO Afrique.
Ok, il y a aussi Sena Dodi Kwadjo qui est au Togo. Nous allons s'y écouter le commentaire qu'il a laissé toujours sur notre numéro WhatsApp avant de revenir vers notre invité.
Bonsoir à tout le monde à la studio et bonsoir à tous les auditeurs, à tous les auditrices de la VO Afrique. À mon humble avis, pour améliorer les conditions des femmes et des jeunes filles, il faut que nos États aident les femmes et les filles qui sont dans les milieux informels et les faire entrer dans les milieux formels, mettre en place des institutions financières pour aider les femmes dans leur entrepreneuriat ou pour financer ceux qui veulent entreprendre quelque chose. Donc pour l'inégalité qui existe entre les femmes et les hommes, je pense que ça, c'est à nos États de voir cela, de mettre en place des institutions des droits des femmes pour protéger les droits des femmes et pour valoriser aussi les femmes et nos filles. Les femmes sont nos mamans et sont nos sœurs, donc qui méritent d'être respectées, d'être chéries et d'être valorisées. On dit toujours derrière un homme fort, il y a toujours une femme. Donc nous devons savoir que derrière une femme forte, il y a toujours un homme. Donc, aidons-nous les uns les autres pour construire ce monde et le rendre plus meilleur que nous l'avons trouvé. God bless Peace Africa.
Ok, voilà, nous allons vers Djamila. Vous avez écouté aussi, il y a le dernier auditeur qui fait mention du fait qu'il faut financer les activités des femmes. Que pensez-vous de cette approche, surtout les femmes peut-être qui sont dans les villages ou qui ont vraiment des activités économiques?
Alors, je vais juste attirer l'attention sur une chose. On a eu plein de commentaires, mais je n'ai encore entendu aucune femme. J'espère que les femmes qui nous écoutent, il y en a certaines qui vont nous laisser un commentaire. Alors, le fait que ce qu'il vient de dire est quand même une chose extrêmement importante, parce que quand vous allez dans les villages,
oui,
l'une des choses extraordinaires que j'ai remarquées, c'est que les femmes portent l'économie du village la plupart du temps. Mm-hmm. En Afrique, Afrique de l'Ouest, que je maîtrise le plus, la plupart des villages que vous allez visiter, l'économie locale est portée par les femmes. C'est les femmes qui sont, en termes de transformation, en termes de vente, en termes de commercialisation, elles dominent sur ce domaine.
Oui.
Mais elles dominent sur ce domaine d'un point de vue informel. Alors, comment faire, comme il l'a dit? La meilleure chose pour nous aujourd'hui, à ce niveau, ce serait de faciliter à ces dames-là, à ces associations de femmes, à ces AGR, comme on les appelle la plupart du temps, d'avoir un statut plus officielle, mais en plus leur faciliter l'accès sur certaines démarches administratives. Parce que quand on regarde, la plupart du temps, les démarches administratives sont très compliquées. On leur demande d'avoir une certaine notion en français ou dans la langue parlée dans la zone, ce qui est difficile pour les femmes, parce que la plupart des femmes n'ont pas forcément fait de longues études.
Oui.
Mais par contre, quand vous parlez avec ces femmes en langue, mais je pense qu'elles vont vous sortir des théories en termes de marketing qui est quand même très poussée. Donc, peut-être que l'État doit quelque part créer un pont pour que ces femmes sachent que même si elles n'ont pas accès à la langue, la langue administrative, qu'elles puissent avoir accès aux services administratifs.
Mm-hmm. Qu'elles puissent au moins s'exprimer, quoi.
Voilà. Qu'elles puissent, pour que leur voix puisse être entendue.
Oui.
Et en ce moment, ça permettra de pouvoir aujourd'hui quantifier. Peut-être que les calculs qu'on fait, c'est sur la base de ce qu'on voit autour de nous. C'est sur la base des femmes qui sont parties à l'école, pour la plupart du temps.
Oui.
Pourtant, ces femmes qui ne sont pas parties à l'école, ce n'est pas comme si elles étaient assises, qu'elles n'avaient pas un impact économique. Elles en ont, mais elles n'ont pas la capacité de s'intégrer dans le processus où elles sont valorisées. Donc, à ce niveau, je pense que c'est pleinement le rôle de l'État de se dire, ok, je sais qu'il y a des structures qui existent, quel est le meilleur moyen de les intégrer et de leur faciliter l'intégration, même s'il y a une barrière de langue qui s'impose. Elles n'ont pas besoin de la langue, elles ont juste besoin d'avoir accès aux services administratifs. Et ça, c'est le rôle de l'État.
D'accord, merci beaucoup. Le rôle de l'État est beaucoup évoqué au cours de cette émission. Il nous reste deux commentaires à écouter. D'abord, Kanyoumé Diara qui est au Mali.
Bonsoir à toute la rédaction de VO Afrique et nos millions d'auditeurs. C'est Diara Kanyoumé depuis dans mon village natal à Sonitieni. Bon vendredi à tout le monde et tous les musulmans. Bon, par rapport à le sujet, je pense que je parle en Afrique. Bon, pour lutter contre cet phénomène, je pense que c'est pas facile parce que en Afrique, je parle comme en Afrique, il y a plusieurs jeunes filles avec plusieurs garçons. Quand on fait inscrire dans l'école, je pense que vraiment on fait leur instruction à partir de 7 ans. Donc si ils arrivent à l'école, si au moins ils ont arrivé dans les grandes écoles, je pense que vraiment à cause des pauvreté et leur scolarité là, ça gâte là-bas, parce que si tu n'as pas l'argent, je pense qu'il y a certaines choses que vraiment les parents, surtout qui sont au village, ils ne peuvent pas trouver l'argent pour financer et leurs enfants par rapport à leur étude, parce que si tu commences au moins première année jusqu'à au moins septième, si tu fais le DEF, les enfants qui ont transféré d'aller faire leur étude en ville, parce qu'ils voient plusieurs problèmes là-bas par rapport à problèmes de déplacement ou bien par rapport à problèmes de nécessaires de l'école ou bien par rapport à des problèmes de nourriture. Donc je pense que vraiment c'est pas facile. Donc pour lutter contre ces phénomènes, j'ai vu beaucoup de cas ici, au moins c'est dans mon village, comme mon village natal à Sonitieni.
Merci beaucoup. Nous allons à présent écouter le dernier commentaire de Tiégué Jean avant de retourner vers notre invité pour la conclusion.
Bonsoir VOA Afrique, bonsoir chers auditeurs. Parlant des inégalités entre les hommes et les femmes, franchement parlant, autour de moi, ce thème mérite vraiment d'être débattu. Et au passage, je félicite le président Faure pour l'initiative de placer les femmes à des postes stratégiques afin d'encourager les autres à s'y lancer. Sinon, en tout cas, je pense que les inégalités entre la femme et l'homme s'enfonceraient de plus en plus au bas du plafond, parce que les femmes ici ont cette psychologie selon laquelle c'est l'homme qui doit avoir un bureau, c'est l'homme qui doit aller au boulot, c'est l'homme qui doit être ceci, c'est l'homme qui doit construire, c'est l'homme qui doit occuper le poste.
Merci beaucoup. Alors Djamila, il nous reste juste 20 secondes pour conclure cette émission. Alors comment est-ce que de façon globale on peut améliorer la condition des filles et des femmes dans nos pays africains?
Alors, je vais être très rapide sur cette question. Je pense qu'il est important déjà que l'État, d'un point de vue purement, qu'il apporte certaines actions concrètes sur sa politique en termes d'éducation et d'égalité d'accès à l'éducation.